Jeune âge, il est capital de réaliser des lunettes adaptées pour leurs activités en intérieur comme en extérieur.
Alors chez Optique 2000, on a créé le pack junior pour 30 euros de plus. Pour en profiter, demandez conseil à votre opticien. Optique 2000, on va se revoir. Le pack junior Optique 2000, dispositif médical CE, voire conditions en magasin.
France Inter présente
5ème République, anatomie d'un régime en crise.
Un livre de Thomas Negaroff et Anne-Charlène Bézina.
Notre constitution est-elle à bout de souffle? Peut-elle survivre à la crise politique actuelle? 45 questions pour comprendre l'histoire politique contemporaine de la France.
5ème République, anatomie d'un régime en crise, un livre France Inter.
France Inter change d'application. Retrouvez-nous en direct sur l'appli Radio France.
Bonjour Nagui, je ne sais pas ce que Daniel Morin fait en régie, dans la régie de mon studio, je ne sais pas ce qu'il fait là.
Ben, il apprend comment faire une émission de radio qui finit à l'heure.
Oui, c'est ça. Et
c'est pas ici qu'il trouvera. C'est Thomas Nguijel qui est notre invité aujourd'hui pour son film.
Bon ben lâchez-le maintenant. Ouais. Allez, bonne émission Nagui, 11h01 à l'écoute de France Inter. Les toutes dernières informations avec Amélie Perrier.
Un peu plus de justice fiscale, c'est le projet de la taxe Zucman, du nom de l'économiste français Gabriel Zucman. Il est à l'origine de la proposition de loi pour fixer un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Car les milliardaires, les multimillionnaires structurent souvent leur richesse pour ne pas générer de revenus taxables. Pas d'impôt sur le revenu, leurs dividendes sont souvent reversés dans des holdings à l'étranger. Alors la taxe Zucman soumise au Sénat ce matin a déjà été adoptée en février à l'Assemblée nationale. Les taxis réembrayent et remettent la pression sur le gouvernement après une pause d'une dizaine de jours. Ils manifestent ce matin à Bercy devant le ministère de l'économie, toujours pour protester contre la nouvelle tarification du transport de malades censée faire des économies à l'assurance maladie. De nouvelles discussions sur le sujet sont lancées au ministère de la Santé. D'autres syndicats, 5 centrales, appellent eux à manifester pour la Palestine samedi. Les CFDT, CGT, UNSA, Solidaires et FSU organisent une marche à Paris, place de la République et partout en France. Il dénonce la fuite en avant mortifère des autorités israéliennes et les exactions à Gaza, dit le communiqué. Les syndicats réclament un cessez-le-feu immédiat dans le territoire palestinien et un accès sans entrave de l'aide humanitaire. Ces 5 organisations demandent aussi la reconnaissance de l'État de Palestine et appellent la France et l'Europe à agir pour la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël. Les distributions d'aide virent au carnage une nouvelle fois dans la bande de Gaza. Les secours palestiniens recensent 31 morts et environ 200 blessés par des tirs de l'armée israélienne, tirs de chars et de drones sur des milliers de civils. Ces victimes allaient chercher de l'aide humanitaire, de la nourriture au centre d'aide américain, précise encore la défense civile palestinienne. C'est un virage en Corée du Sud. Le nouveau pouvoir annonce arrêter la diffusion de la propagande contre son voisin, la Corée du Nord, dans les zones frontalières. Depuis l'été dernier, en réponse aux ballons remplis d'ordures envoyés par le Nord, Séoul au Sud avait allumé des haut-parleurs puissants diffusant des messages de propagande toute la journée. Mais depuis, le nouveau pouvoir veut tenter de rétablir la confiance entre les deux voisins ennemis et d'y chercher la paix dans la péninsule coréenne. Et puis, des autocollants rouges avec une poussette dessus pour signaler les commerces accueillant avec bienveillance les familles. C'est l'outil trouvé par la haute commissaire à l'enfance, Sarah El-Airi, préoccupée par la tendance No Kids, tous ces endroits interdits aux enfants, tendance se répandant en France, dit-elle. Ce label prendra en compte l'accueil des enfants sans surcoût, le personnel accueillant et les aménagements adaptés, des toilettes et les espaces de jeu pour les enfants.
France Inter présente
le podcast Espion, une histoire vraie.
Stéphanie Duncan.
Une série de portraits d'agents secrets pour plonger dans les eaux troubles de l'histoire. De Paris à New York, en passant par Moscou, Buenos Aires ou Téhéran, suivez les aventures fascinantes de ces hommes et de ces femmes au destin hors du commun.
Espion. Une histoire vraie.
Retrouvez tous les épisodes sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
Chez Optique 2000, on a observé, réobservé, ré-réobservé les enfants et voilà ce qu'on a retenu.
Maman, j'ai mal à la tête. Papa, pourquoi j'ai mal aux yeux? Mes yeux, ils me grattent.
Dès le plus jeune âge, il est important de préserver le confort visuel des enfants. Pour qu'ils restent à l'aise en toutes circonstances et au quotidien, nos opticiens vous conseillent le pack junior. Pour une première paire achetée et 30 euros de plus, profitez d'une seconde paire anti-reflet et d'une troisième paire solaire à la vue. Optique 2000, on va se revoir. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien.
France Inter, partenaire du festival Mot pour Mot, organisé par Le Monde, Le Nouvel Obs et Télérama. Une 5e édition marrainée par Lola Lafont autour d'une 40aine d'auteurs et autrices. Neige Sino, Vanessa Springora, Camille Laurence, Olivier Norek, Christine Angot. Rencontres, lectures, signatures et autres festivités pour mettre la littérature et la musique à l'honneur. Mot pour mot, les 21 et 22 juin à La Villette, un événement Le Monde, Le Nouvel Obs et Télérama avec France Inter.
France Inter, 11h05, c'est l'heure de la bande originale. Salut Nagui, salut tout le monde, salut Laïla.
Amélie Perrier revient à midi pile. Ah, contrairement à Ali, nous serons à l'heure. À tout à
l'heure.
C'est promis. La bande originale, c'est sur Inter, c'est maintenant avec Leïla, comme vous l'avez dit, Lisa Delmoitier, Julie, Conti, Bruno Pecky, Tanguy Pastureau, Paul Delas, Daniel Morin,
bonjour.
Et notre invité, Thomas Gijol.
France Inter, la bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
Indomptable, ouais. Le nouveau film réalisé, interprété, adapté aussi. C'est un roman que vous avez adapté, Thomas.
Un documentaire.
Pardon.
Que vous avez adapté.
Ça commence bien.
Crime à Abidjan.
Un crime à Abidjan, absolument. Ouais.
Enfin, un truc juste. Ça fait plaisir. Indomptable. Ce qui est intéressant, c'est que l'une des premières scènes, si ce n'est la première scène, c'est le rapport d'un père avec son fils. Indomptable, justement, problème d'éducation. Comment éduquer son fils et quel rapport installé, petit tour de table, puisqu'il y a une punition qui est annoncée. Je crois que l'exemple qui est donné, c'est celui du rapport entre le père de Marvin Gaye et Marvin Gaye.
C'est ça. Ouais.
Bah, qui l'a tué, quoi.
Pour calmer son fils en faisant preuve d'autorité, il fait, tu sais ce que le père de Marvin Gaye a fait. Marvin
Gaye. La menace.
Ah ouais, j'adore. Bon, alors, souvenir d'une punition, Lisa, est-ce que tu as déjà été punie par tes parents?
J'étais rarement punie parce qu'enfant très discrète.
Non, bien élevé, on dit.
Ouais, mais je pense parfois, ils oubliaient que j'étais là. quand même, ma messe à moi, beaucoup trop jeune d'ailleurs, c'était regarder les Simpsons. Et du coup, la punition ultime, c'était me priver des Simpsons.
Ah, ok.
Ouais, bien sûr, c'était compliqué. J'avais besoin de ma dose d'insultes.
Julie.
Aussi très peu de punition, mais plutôt parce que j'avais plutôt des parents démissionnaires, je dirais. Mais une punition, je me souviens, c'est qu'avec mes cousins, ils n'avaient pas le droit de jouer aux jeux de société quand on était ensemble parce qu'on finissait toujours par se battre.
Ah oui.
On était interdits de jeux de société.
Oh. D'accord, ouais, c'est costaud. Ouais. si seulement ça avait été pour nous, pareil, Leïla.
Bah, pas mal de punitions,
bah ouais.
Mais en même temps, en réalité assez méritée. Notamment une qui était bataille autour du jeu Mikado. Voilà, on s'est battu pour jouer à ce jeu, bon bref.
Et, mais il y a deux yeux crevés.
Et donc pour mettre fin à la bataille, mon père a juste pris le jeu et puis il l'a cassé en deux, il a mis la poubelle.
Ah,
plus de jeu, plus de problème. Voilà. Et nous, c'est un peu comme ça qu'on résout les
Tanguy,
problèmes.
Tanguy, Pastureau, souvenir.
Moi, je fais partie de cette génération d'enfants dont les parents, en fait, quand on était punis par le prof, rajoutaient la punition x2 et écrivaient dans le carnet de correspondance, c'est bien mérité, donnez-lui plus. Quoi.
Oui. Bah oui.
Et voilà.
Et
si
tu finis au poste, je ne vais pas venir te chercher.
Ouais,
te
ça n'allait pas jusque-là quand même. Mais effectivement, ouais, j'avais double punition.
Rendez-le. Tes parents étaient profs?
Non, mon grand-père, que j'aimais beaucoup, était prof.
Non, parce que les miens étaient profs, et dès que j'étais convoqué ou une punition de prof, ils étaient comme les tiens, c'est-à-dire, vous avez totalement raison.
Et c'est l'époque qu'on donnait raison aux professeurs.
Et il y avait une sale ambiance à la maison pendant quelques temps, quand même, après. Daniel?
Moi, c'était sous forme de vanne, très bonne vanne de ma mère, j'arrêtais pas de l'emmerder avec, de toute façon, quand j'aurai 18 ans, je vais me barrer, nanana. Et le jour de mes 18 ans, pour mon anniversaire, elle m'a offert une valise.
C'est vrai?
Ouais.
C'est vrai. Moi, c'était pas une punition, mais on était dans une maison.
Zéro punition?
Je me rappelle pas d'une vraie punition que j'assumais. En revanche, il y avait un truc qui nous faisait mal tous les soirs avec mon frère, puisque on était plein de copains dans la résidence. Mais c'était très simple. C'était vraiment
très sobre.
Mais nous, on commençait par faire les devoirs pendant une heure et demie. On travaillait pendant que toutes les autres jouaient dehors. Et quand on pouvait enfin sortir, là, tous les autres rentraient pour faire leurs devoirs. Et c'était ressenti comme une punition, mais ça n'en était pas une. Voilà, c'est vrai.
Moi, c'est les chaussures.
Ouais, ça se voit.
De ma mère.
Ça continue.
C'est-à-dire que dès l'instant où il y avait un truc qui n'allait pas, où j'avais fait quelque chose de pas bien, à distance, elle prenait ses chaussures et.
Je croyais qu'elle était obligée à les porter.
Elle me balance. Ça, c'était dans nos soirées, Daniel. On avait dit qu'on en parlait.
Ah oui, mince, pardon.
Et mon grand jeu, évidemment.
C'est un vrai signe d'intégration parce que.
Oui, c'est vrai.
C'est un vrai signe d'intégration. Vrai.
Maman d'origine italienne-française, oui. mais qui se comportait comme, voilà. Comme papa le faisait de temps en temps.
Voilà.
Mais donc, taper avec la chaussure...
Le verre à moitié rempli.
Et évidemment, la provocation ultime était de rattraper la chaussure et d'essayer une deuxième fois. Ce qui fait que ça l'énervait encore plus. Thomas, vous, hors du film, ouais. est-ce que vous avez un souvenir d'avoir été puni enfant ?
Pas trop.
Zéro.
Un petit peu, mais en fait, moi, je suis le quatrième garçon, en fait. Donc, mes frères, ils ont...
Ça change quoi ?
Bah, ça fait que mes frères ont pris pour moi. Moi, j'étais donc, pas... Moi, j'étais très couvé, en fait. Donc, puis, j'étais très doux. J'avais quand même des, comme on dit, des exemples et des contre-exemples devant moi. J'avais l'intello, j'avais celui qui fuguait tous les jours et j'avais le délinquant. Donc, au milieu.
Ah oui, il y avait le spectre de tout ce qui était possible.
Tous mes frères ont tous les profils du banlieusard, quoi.
Et vous avez réuni les trois en un.
Moi, ouais, c'est vrai que c'est une petite synthèse de tout. J'ai des études plutôt moyennes, j'ai un peu racaillé dans la rue, mais c'était minable. Et j'ai fui deux, trois fois de la maison, mais quand j'avais faim, je rentrais. Donc, c'est un mix de plein de choses.
C'est l'enfant idéal,
Nagui,
quoi.
Ouais, un petit peu.
Nagui, je sais que Bruno Péquy a encore l'âge d'être puni par ses parents, mais vous l'avez zappé. Vous lui avez pas posé la question.
C'est ça, j'ai dû faire un truc à Nagui et il m'a zappé pendant le tour.
Ah, t'es là ?
C'est lui, ouais. Non, mais moi, c'est un peu la même chose que toi.
Est-ce qu'on punit en Suisse ?
Ben justement, c'est plus mais le truc de la chaussure, mais c'est les chaussures de ma mère brésilienne, c'est les tongs Havaianas.
Ouais, bien sûr.
Ah,
oui.
Et c'était ça. Mais ça le problème, claque. C'est si une fois elle l'a pas, le problème des chaussures, c'est qu'il y en a deux, quoi.
Mmh. Bah
elle
oui.
prend la deuxième, elle essaie avec la deuxième, même si tu la rattrapes pas et tu lui donnes pas. Tu
et puis elle sait bien.
Il y a toujours deux essais et ouais. Il y a une grande.
Est-ce que tu. Est-ce que tu.
Waouh, tu la connais. Ouais. Ça peut sonner un peu comme une insulte.
Ouais,
je suis
désolée
à ta mère.
Je suis désolée.
Indomptable, c'est l'histoire d'un commissaire. C'est l'histoire d'une enquête, tout ça se passe au Sénégal, indomptable.
Au Cameroun.
Ouais. Ce sont les lions aussi.
C'est une référence un petit peu, oui, au nom de l'équipe nationale du Cameroun, les lions indomptables. Mais c'est aussi une référence à tous les personnages, surtout une référence à tous les personnages du film. Et c'est un adjectif qui qualifie assez bien la mentalité camerounaise, et la mienne aussi.
C'est-à-dire aussi d'une...
Il est super ce film.
D'un policier. Ah oui, c'est une réussite, ouais. Non, tu as raison,
c'est vraiment ce qu'on voulait vous dire en premier, parce qu'on s'est dit ça juste avant l'émission lundi, il faut vraiment qu'on lui dise à quel point...
Puis on a marre des émissions un peu trop longues, donc...
Non, c'est vrai, on va arrêter maintenant. Il est vraiment génial.
C'est réussi, ça joue bien. Il y a évidemment l'enquête policière, mais il y a surtout presque ce documentaire de dire à quel rythme, de quelle manière les choses se font. Avec quelle culture, quel tempo, et puis ce rapport d'éducation, père-fils aussi, la famille.
Le rapport à l'autorité au sein de la famille, au sein de la société, dans le rôle
au sein du commissariat aussi, avec ses propres collègues.
Vous avez un côté Clint Eastwood dans ce film.
Oh, c'est gentil.
Dans ce personnage de flic comme ça, alors pas forcément avec les mêmes orientations que ce.
Mais j'allais dire, oui, ça peut vouloir tout dire.
Qui n'y croit plus trop, on ne sait pas trop où il en est dans sa carrière, s'il est un peu au bout du rouleau.
Ah, il est en tout cas. Il est au bord de la rupture, c'est sûr. Ouais. Dans sa vie privée comme sur le terrain. Ouais. Mais c'est ça qui m'intéressait, c'est que le mec, il est sous tension sur les deux tableaux et justement, il se comporte comme un flic à la maison et des fois comme un papa avec les suspects.
Ou comme une racaille aussi par moment dans sa manière de faire des interrogatoires. Ouais. Et il y a beaucoup dans les
violences. Une violence qui jaillit parfois,
malgré
lui. Quoi.
Et puis il y a...
C'est le chip là que t'as tenté. Ouais. Parce que pour moi, t'as mangé des chips ou je n'arrive pas à
comprendre. C'est le chip.
Faites le
vrai.
Voilà. C'est instinctif. Ouais. C'est même pas. Là, tu m'as dit de le faire. J'arriverai. C'est un truc.
Ça sort comme ça.
Il y en a énormément dans le film.
Bah, ça fait partie de la culture. c'est comme ça. C'est au Cameroun. On dit pas. Bah, dis donc. Tu vois. C'est en chip. C'est une virgule. C'est une. Un point d'exclamation. C'est un ras-le-bol.
C'est un soupir. C'est ça.
Ouais. C'est un truc qui sort comme ça. Moi, je vis avec ça depuis tout petit. Mes parents le font pour. Je l'entends même plus en fait. Ça fait partie, et puis même moi je le fais.
Et il n'y a même pas le côté ça ne se fait pas, c'est pas poli.
Tu vas pas faire ça devant le chef d'État, non.
C'est vrai.
Non, tu fais pas ça devant un ministre. Si lui il le fait, tu peux, mais ça dépend le contexte en fait. Si on discute d'un truc et qu'à la fin je mets un chip, mais le chip peut être un peu à connotation un peu vulgaire, voire négative.
Ouais.
Donc il faut
faire attention.
C'est un contexte. Okay. C'est un contexte. Ça fait partie du. Voilà, il y a le camembert en France, il y a le chip au camembert.
Ah ouais, c'est culturel.
C'est culturel, je sais pas. Il y a quelque chose qui.
AOC. AOC.
Voilà.
Camembert, chip.
Indomptable, le film est réussi. Signé Thomas Gijol, il est avec nous jusqu'à midi et demi. Mais d'abord, voici votre plus grand fan, c'est Old Olaf.
Fan de Thomas N. Gijol, je suis fan depuis les années folles. C'est Jamel Debbouze qui vous a tendu la main. Vous avez dû serrer trop fort, on dirait bien. Je suis fan de Thomas Casdépart, quel gros succès. Votre film avec vos deux copains Fabrice et Boué, ça parle de ségrégation et d'esclavage. On connaît ça, ces deux Arabes qui nous tiennent en otage. Et vous êtes avec nous pour le film Indomptable, un thriller au pays des lions indomptables. C'est l'équipe du Cameroun, mon équipe préférée. J'ai même failli y jouer, mais j'étais pas camerounais. Je suis fan de Thomas N. Gijol. Enfin N. J, c'est comme ça que tous vos amis vous collent. Ils connaissent le secret de votre nom aussi. C'est juste une pub pour négocier vos factures d'énergie. Chou N. J, dis-moi oui N. J, pour mon énergie N. J, j'ai dit oui. Oh, les temps se gâtent, NJ sans souci. Il est au top de l'écologie. Car depuis Fast Life et le Jamel Comedy, Thomas travaille pour NJ. Il s'excuse pendant que je chante, mais ouais. Je suis fan de Thomas, l'acteur réalisateur. Surtout quand il tourne comme ça avec sa Cameroun. Ouais. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Merci, bienvenue à vous avec la bande originale.
Yeah. Il a tout osé. Il a tout osé.
Moi, j'ai dépassé mon quota d'excuses.
Il a...
voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu.
Thomas.
Film réalisé avec sa Cameroun. Cameroun. Ouais. Mais même pas compris la vanne. Femme like you.
Like you.
J'ai failli être buzzé pendant le.
Okay. Voilà. Pendant je me suis excusé auprès de.
C'est une bonne guerre. Mais elle était longue la digression sur l'énergie. Il y avait vraiment un tunnel sur l'énergie. Je me suis dit, attends, c'est une petite blague. Non,
quand
il...
tu trouves quelque chose d'aussi génial, c'est tu travailles avec
le vraiment. Il y a remix de NG.
Mais j'ai le disque avec moi, je te l'offre.
Ah bah, je veux l'avoir.
T'es pas obligé, hein, Thomas.
Et ils vont se régaler à Lyon parce que Old Olaf, il sera après-demain soir.
Tout à fait.
Très bien. Donc nous sommes à Yaoundé, le commissaire enquête sur le meurtre d'un officier de police, donc c'est extrêmement grave, on entend et on est au début de cette enquête avec ces balles perdues, mais ces recherches de témoignages aussi, et puis ce rapport à la police, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie d'être témoin, on n'a pas envie d'aider la police en fait.
Ouais. Ouais. Bah, on n'a pas envie d'avoir de problème, plus ou moins, c'est ça, c'est un peu la fuite de problème. C'est pas le fait de pas aider la police, c'est que souvent dans les localités un peu populaires, quand on est peut-être témoin d'un meurtre, mais de quelque chose, d'une agression, on n'a pas trop envie de balancer, comme on dit vulgairement, pour sa sécurité et de se dire que voilà, on va pas venir m'embêter dans ma vie privée après. Donc il y a un peu la fête loi de l'omerta.
Et puis ce commissaire, il est quand même très rigoureux. Il est un peu perdu dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, mais il a des principes.
Ouais.
Les principes d'abord de respect, de tradition, de ne parle pas comme ça devant telle personne, ne te comporte pas comme ça. Mmh. Il est très fidèle à son éducation.
Ouais. Bah, il est un peu inspiré de la mienne, inspiré de celle que mes parents m'ont inculquée. Et c'est vrai que. Il y a quand même un peu d'autobiographie dans ce film, donc forcément, oui, c'est des choses que j'ai entendues tout le temps.
Il faut pousser droit, quoi.
Ouais, faut marcher droit, marcher droit. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai un peu échappé quand même, il faut le dire, mais pour mes frères, moi, j'étais très témoin de ça, je voyais que c'est des choses qui rabâchaient beaucoup mon père, ouais.
Qu'est-ce qui vous a plu ?
C'est un peu vous, le petit dernier
ouais,
dans le film.
C'est moi, clairement.
Qu'est-ce qu'il est trop joli. Mais qu'est-ce qu'il est beau.
C'est ce qu'on disait de moi quand j'étais petit.
C'est marrant au début.
Dans les escaliers. Non, ça, dès que j'ai grandi, fin de game, je dis wow, le petit Thomas, là, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Avec son petit t-shirt, ouf.
Le petit chanteur.
Je peux le prendre tout de suite.
C'est lui qui a écrit des paroles.
Ouais, c'est formidable.
Vous aviez envie de raconter cette histoire pour. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Le point de départ, c'était de le réaliser et de le jouer, de caster aussi les très bons acteurs qui vous entourent, parce que ça joue extrêmement bien. De raconter cette histoire comme ça pourrait être n'importe quel polar qui se passerait n'importe où, mais comme il y a un paysage culturel, comme il y a un paysage aussi dans la manière dont l'électricité fonctionne ou pas, dont les rues sont propres ou pas, dans la nourriture qui se cuisine ou pas dans la rue.
La façon dont est géré l'argent aussi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'un policier qui se passe à New York, bah, on a toutes les refs des rues New York. Là, vous vouliez qu'il y ait toutes les refs des rues du Cameroun.
Peut-être pas toutes, mais beaucoup. Moi, je suis très effectivement quand même fan de polar, donc j'avais envie aussi d'être en immersion, mais à taille humaine. Je voulais pas faire un film fantasmé sur l'Afrique ou faire un petit côté carte postale.
Ni une parodie, vous l'avez déjà fait.
Et puis pas non plus faire le flic qui fume des clopes dans les coins de Yaoundé, qui aurait été un peu cliché. Je me suis beaucoup attaché à cette histoire aussi de famille. Qui, voilà, le film, c'est un peu 50-50 polar et cette histoire de famille. Et pour revenir au début de ta question, c'est vrai que c'était viscéral pour moi de faire ce film. Ça, c'est à la sortie de mon dernier spectacle, j'avais vraiment envie de me raconter, d'être dans quelque chose d'un peu intime. J'avais passé, on va dire, un peu exposé le plafond de verre avec mes enfants dans ma relation avec eux sur le dernier spectacle et j'avais envie de continuer dans cette lignée. Plus connecté à moi et mon rapport au père, justement.
Ouais. Voilà. En inversant peut-être les rôles, en se projetant vous dans la peau du père que vous avez eu. Rapport aussi femme-garçon totalement différent culturellement. C'est-à-dire qu'une fille ne doit pas se comporter de telle et telle manière dans la rue. Il y a le jugement et puis d'un coup la marmite boue trop fort et elle pète un câble et elle finit par dire tout ce qu'elle pense à son père.
Ouais, après je pense que c'est même pas tant un traitement lié à la fille en fait. Je pense que c'est plus moi j'ai écrit plus
La place de la femme à Yaoundé, elle est équitable.
Elle est là, ouais. Il y a pas de souci avec ça. Moi je pense que c'est plus quelqu'un qui sait pas faire.
Ouais.
C'est plus face à une femme, on va dire de façon très triviale, avec un garçon, il y a la chicotte, il y a la force et tout. Avec une femme, il sait pas faire, en fait, ce personnage-là. Moi, je l'ai expérimenté dans ma famille, où on est un peu mal à l'aise avec la femme, mais ça veut pas dire que la femme n'a pas le droit d'eux. Elle fait ce qu'elle veut, en fait, il n'y a pas de souci, mais dans cette société...
Comment lui dire,
comment faire passer les messages, comment se comporter quand on veut justement peut-être réprimander ou remettre sur le droit chemin, c'est pas évident en fait.
Ouais, dans le rapport père-fille, c'est plus complexe, on a moins les codes.
Exactement.
C'est moins simple. En revanche, on voit bien la place de la mère et on voit à quel point elle décide.
Exactement.
Et finalement, c'est à la maison, l'autorité, c'est pas vraiment lui. Hein.
Ben oui, complètement. Complètement. Et moi, c'est une de mes grandes fiertés en plus sur ce film où je l'ai pas du tout écrit avec l'espèce de dogme 2025, à écrire un personnage féminin fort et tout ça. Choses-là, je l'ai fait très naturellement et c'est vraiment à la fin du montage, je lui dis bah finalement, toutes les femmes s'en sortent plutôt bien dans ce film.
Ouais,
j'étais plutôt satisfait, heureux de ça. Je sais pas si c'est la vie, effectivement, moi je vis entouré de 5 femmes, donc peut-être inconsciemment, j'ai une sorte d'évolution, parce que je pars pas de ça, peut-être que je pars aussi avec beaucoup de...
Non mais on part tous d'une éducation très patriarcale, c'est culturel.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un naturel, mais c'est un naturel aussi qui est peut-être revenu, parce que la première femme forte que j'ai connue, c'est quand même ma mère.
Bah oui. Et donc, quand on parle d'éducation patriarcale, moi je trouve qu'on en fait une image comme ça globale, mais en réalité, j'ai toujours eu l'impression d'avoir vu des femmes qui avait un sacré tempérament dans des maisons et dont qu'on fait passer pour des victimes
il n'y a jamais eu de victime.
Je parlais au niveau dans la société,
dans la représentation.
Bien sûr. Mais sincèrement, la femme, en tout cas je veux parler de ce que je connais à une certaine mesure, mais la femme au Cameroun est très présente et très forte et a une vraie place, ça c'est sûr.
La transmission est aussi au cœur de ce film, parce qu'il fait son job de commissaire et il doit gérer
sa vie privée, justement, son éducation. Il y a des silences qui en disent long dans le film. J'ai adoré aussi ces scènes où tout est dans le regard et peut-être pas le jugement, mais en tout cas l'absence de communication.
Ouais, mais il y a beaucoup de pudeur dans nos foyers, si je puis dire. On comble pas, il y a pas beaucoup de paroles, quoi. Et puis même jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, moi je suis encore touché par ça. Bon, c'est vrai qu'avec mes filles, je les abreuve de mots et de marques d'affection, mais quand même, moi, avec mes parents, voilà, quoi, c'est déjà se toucher, c'est beaucoup.
C'est pudique.
C'est beaucoup, quoi.
Mais quand vous dites que vous aimez les policiers et les enquêtes, vous n'aviez pas envisagé de faire un film avec des effets spéciaux, avec des poursuites de dingue, mais être le plus proche possible de la réalité.
Poursuite à Yaoundé, je veux dire, avec les embouteillages, ça dure 20 secondes.
C'est drôle pour l'ambulance. La scène de l'ambulance avec le. C'est bon, il n'y a plus d'embouteillage, vous pouvez l'emmener à l'hôpital maintenant.
Mais 20 minutes après, c'était fini. Heureusement qu'il avait coupé. Je peux vous dire qu'elle n'a pas avancé longtemps. Mais non, c'est. Je voulais vraiment raconter l'histoire de cet homme, et pas être dans quelque chose de. Je voulais être brut, je voulais pas être stylé, je voulais faire un film vrai. Je voulais
et pourtant,
être...
il est stylé.
Ouais,
il a une classe naturelle, en fait.
Ah, ouais. Bah oui, et merci, mais c'est surtout parce que j'ai pas voulu faire. Voilà, Africa is Beautiful ou tous les pensifs sur l'Afrique.
Je voulais mais je parle, ça dégaine, par exemple.
Vous,
non, mais vous lui avez trouvé une posture.
Il a la classe.
Ouais, mais il a quand même le dos légèrement courbé, comme s'il était un peu fatigué par la vie.
Ouais. Bah, ça, il y a aussi l'inspiration du documentaire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Moi, j'ai grandi quand même avec cette génération aussi de parents qui étaient très tirés quatre épingles, quand même, dans la vie de tous les jours, quel que soit leur boulot d'ailleurs.
La politesse.
Voilà, c'était une présentation en société, et c'est vrai que voilà, je me suis amusé à revoir des images de ma jeunesse, et puis même jusqu'à aux clés de voiture, parce que j'ai toujours des clés dans ma main. Où c'était un peu la fierté à l'époque, dans les années 80. T'as une voiture, tu montres un peu ton trousseau de clés, quoi. Surtout si c'est une Ford Escort, là, c'est le Ligue des Champions.
Il fallait qu'il la place. Indomptable, le nouveau film de Thomas Gijol. Il est au cinéma aujourd'hui, ce film. Et Thomas est notre invité jusqu'à 12h30. Voici Lisa Delmoiti.
Bravo.
Lisa, vous n'auriez pas fait un film policier comme ça, vous ?
Non, mais pour les mêmes raisons que Leïla. Comment il est mort, Marvin Gaye? Son père l'a tué. Mais les darons, il faut une intervention là. Il faut changer vos fun facts. Hein. Marvin Gaye faisait partie d'un boys band. C'est bien ça. Peu de gens le savent et c'est bien pour créer du lien avec ton fils. Ou alors Marvin Gaye a ajouté un E à son nom pour pas avoir l'air d'un gros gay. C'est vrai aussi, je vous jure.
C'est vrai.
Bon, ça reste les années 50. Hein. Si tu creuses assez longtemps, ça devient toujours problématique à un moment, tes artistes. La question n'est pas de savoir s'il a dérapé, c'est juste quand. Non, mais voilà. Enfin, ça te pose un personnage et c'est comme ça qu'on rencontre le héros de votre film. Thomas, un commissaire gérant sa famille comme on gère une enquête, c'est-à-dire en faisant régner l'ordre, la discipline, mais sans manger de donuts. Les Américains m'auraient-ils menti? Impossible, c'est pas leur genre. On va finir par les trouver, ces armes de destruction massive en Irak, je crois. Alors, la seule raison pour laquelle j'avais envie de devenir commissaire, c'était pour fumer des clopes en imperméable beige et manger des donuts. J'adore les donuts, j'ai l'impression de manger une cuvette de WC.
J'adore.
Ah oui, parfait. Mais je suis trahie. Mais ce commissaire sans beignet, il sort pas de nulle part. Alors oui, il est inspiré par un flic ivoirien que vous avez découvert dans un documentaire, mais son contexte familial est inspiré du vôtre, Thomas. Mais vous avez fictionnalisé ça, nous offrant ainsi une histoire beaucoup plus intéressante que votre vie. Je me permets. Hein. Non, mais je pense que c'est intéressant de parler de soi par la fiction, par le polar. Parce qu'un mec qui fait de la scène, qui fait un film, tu te dis ça va être je, ça va être très premier degré. Et moi, les récits de vie premier degré, j'en peux plus. Hein. Je ne pourrais jamais être psy. Après 20 minutes, je serai là. Vous aimez les gens, mais vous avez du mal à interagir socialement. Waouh, quelle originalité. Les parents, pas facile, mais ta gueule, vraiment. Laisse-moi deviner, ta femme est distante, ta mère est chiante, ton patron est con. Rejoins la file, mon pote. Et puis rends-moi ça intéressant, par pitié, arrête de te morfondre, juste transcende. Vois pas tes traumas comme une condamnation, mais comme de la matière. Faisant une peinture où tu trompes ta femme, une sculpture où tu bouffes ta mère, un film où t'es commissaire. Par pitié, ferme ta gueule. Oui, deux fois. J'ai vraiment envie qu'il ferme sa gueule. Mmh. Non, mais là où c'est proche de vous, Thomas, on l'a dit, c'est que le film se passe au Cameroun et questionne la figure paternelle. Et sur le sujet, moi, j'y connais rien au Cameroun, mais je vous conseille l'excellent sketch montreux de l'humoriste Sarah Lélé sur les chocs culturels avec son père camerounais. Et si je lui fais de la pub, c'est parce qu'elle est très douée.
Ouais.
Aussi parce que je veux rester avec elle ce soir et j'essaie de me faire inviter. Donc voilà, ça va. Non, moi, j'ai pas de blague sur le Cameroun, je connais pas, mais le portrait que vous en dressez semble réaliste, ni misérabiliste, ni fantasmé. Parce que parfois, les enfants d'immigrés ont une vision idéalisée de leurs racines. Mmh. Tu sens qu'ils y ont jamais mis les pieds, quoi. Comme mes oncles italiens. Melissa à Rome, les femmes sont tellement belles, quand elles allaitent, elles font de la bouffe, voilà.
Waouh.
C'est sûr, hein. Moi, tout ce que je sais, c'est que les éboueurs passent deux fois par an, donc bon, peut-être arrêtez de regarder la Dolce Vita, quoi. Voilà, il n'y avait pas vraiment de meilleures anecdotes pour terminer. Mais, je suis un peu comme les darons, je suis très nul en fun fact, quoi.
Merci. Lisa, portrait d'une famille aussi, histoire personnelle ramenée à cette enquête policière, et puis portrait aussi de la société camerounaise. On peut pas dire que au niveau des infrastructures, que ce soit à la police ou à l'hôpital, on soit au top.
Oui, mais c'est...
On torture les suspects et on oublie les malades dans des salles.
Bah, disons qu'en gros, moi, j'ai fait un état des lieux. J'ai pas voulu... Ça serait un peu culotté de ma part, en tant que Français, de venir au Cameroun et dire que ça va pas du tout et puis reprendre mon avion. J'ai été réaliste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, c'est vrai que c'est une société... Bah, elle est au niveau où elle est actuellement. C'est pas pour rien, parce que quand même... On parle d'un pays qui est sorti de la colonisation. Tout ça, c'est pas des histoires très simples à expliquer.
Et qui résonnent toujours aujourd'hui.
Donc, ils se reconstruisent à leur rythme, à leur façon. C'est pas toujours très évident, mais la société a un certain niveau. Et puis voilà. Mais on va dire les mots qu'il y a dans ce film, dans une société comme celle du Cameroun, ils sont partout dans le monde, dans d'autres pays, à commencer par le nôtre, parce que je sais que souvent, des fois, on parle de violence policière, il manquerait plus qu'en France, ça n'existe pas. Et on parle de corruption, bah, il manquerait plus que ça n'existe pas non plus. Donc, tous ces mots, voilà, c'est vrai que le système médical n'est pas le même qu'en France, et que oui, c'est une société, voilà, économiquement plus pauvre, et là, on ressort les choses de façon plus brutale, mais tous ces mots existent partout, au final.
Vous avez gardé le sens du rythme aussi de la comédie, puisque la comédie a un rythme imposé pour ses effets.
Au final, moi, j'ai pas non plus joué, le film en me disant que je fais un drame. J'ai été droit, j'ai été réaliste, mais c'est vrai que le rythme de la comédie, aide.
Il y a des scènes très drôles.
Oui, mais ils ont beaucoup de second. Enfin, de façon globale, j'imagine que dans le Maghreb aussi c'est le cas. Ils ont beaucoup de second degré sur plein de choses, quoi. Ils sont conscients de leur société, et en plus aujourd'hui, comme avec les réseaux sociaux, ils voient tout. Ils savent rire d'eux-mêmes à certains moments. Donc, effectivement, la vie, même si là, c'est un registre plus sérieux, la vie, c'est pas que sérieux. Il y a des moments où on rigole. Il se passe des choses qui sont en décalage, qui prêtent à sourire. Donc, j'ai pas de souci avec
ça. Oui, et c'est même pas forcément du second degré. C'est-à-dire que votre personnage est en train d'interroger un suspect et qu'il y a une coupure d'électricité. Il est complètement saoulé en disant, mais c'est même ça, on peut pas y rêver. Quoi. Et ça, c'est très drôle de voir tout d'un coup à quel point il est désespéré. On rit un peu de lui, mais.
Ouais.
C'est drôle quand il gratifie tout le monde, salue-moi. Le gimmick du salut, qui est hyper amusant le personnage.
Mais y compris quand il arrive à convaincre un suspect de se cramer finalement.
C'est ça.
Et de révéler, et peut-être d'avoir 20 ans de prison derrière. Allez, serre-moi la main, n'en parlons plus. Indomptable, le film est une réussite librement adaptée d'un documentaire qui s'appelle Un crime à Abidjan de Moscolevi Boukou.
Absolument.
Je n'ai pas cité son nom, pardon. Tout à l'heure, avec un casting 100% camerounais, vous teniez à faire le casting sur place.
Oui, c'était évident parce que c'était le challenge. Je me disais, j'allais pas venir. J'y ai pensé à venir avec des comédiens d'ici, mais je me suis dit une fois que j'étais en repérage, j'ai dit non, je vais tout faire sur place parce que ça n'a pas de sens.
Et de temps en temps, il y a des sous-titres, de temps en temps, il n'y en a pas.
Oui, parce qu'il y a des accents différents. Il y a pas l'accent camerounais, il y a des accents comme ici, il y a des régions, il y en a qui sont très pointues, que même moi, des fois, quand les mecs débitent vite, je n'entends pas.
Et vous-même, vous avez pris un accent?
Oui, moi j'ai pris l'accent de ma région, Basso, moi je suis d'ethnie Basso, et donc oui, j'ai pris l'accent...
Vous l'avez travaillé ou vous savez le naturellement?
Je le connais naturellement, mais quand on est au milieu, on va dire, un peu de ses pairs, on perd un peu de confiance, quoi. Donc j'étais très très rigoureux, et d'autant plus que j'ai appris un peu la langue pour le film, parce que j'ai deux trois moments où je parle en langue, que je ne... je ne parle pas la langue de façon courante, donc j'ai appris un peu, donc j'ai baigné dedans quand même, c'est important.
Une histoire de famille, une histoire humaine avec des rapports de transmission, avec des rapports d'éducation, vous l'avez compris, avec du Marvin Gaye quand même. Vous étiez obligé de l'avoir en BO.
Ouais, parce que Marvin Gaye, c'est une figure de mon enfance, mon père l'écoutait beaucoup. Et puis j'ai longtemps cru sur avec la pochette d'un vinyle là, Midnight Love, que c'était mon père quand j'étais petit. J'ai passé beaucoup de temps à regarder le vinyle, à me dire, ah là, papa était chanteur, c'est extraordinaire. Voilà.
Regarde, regarde, ça fait partie également de la BO du film Indomptable qui sort aujourd'hui au cinéma. Thomas est notre invité jusqu'à midi et demi. Voici Non, pardon, Julie Conti d'abord. C'est
ouais.
Julie.
Ouais. Ouais,
c'est
bravo. Bonne nouvelle. Ariel, la petite sirène, est sauvée grâce à la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan qui bat son plein actuellement à Nice.
C'est vrai.
À Nice, la ville de Christian Estrosi qui tenait très fort à recevoir cet événement. Mais le Balkany de la région PACA, le truc qu'il voulait vraiment sauver, c'est pas les océans, c'est son siège à la mairie dans un an. Hein. Niveau organisation, la conférence pour les océans est divisée en plusieurs espaces. Il y a la zone bleue, ça c'est réservé aux États et aux officiels, donc c'est là qu'on fait semblant d'agir. Il y a la zone verte, ouverte au public et aux ONG, et c'est là qu'on fait semblant d'y croire. Et les lobbyistes des énergies fossiles et de la pêche, ils sont où? Bah, comme d'hab, dans la zone grise, pour vérifier que rien de contraignant n'est décidé. D'ailleurs, l'armateur CMA-CGM a filé 2 millions pour l'organisation du sommet, parce que le budget avait explosé. En mode, si je donne 2 millions pour votre petite réunion, vous laissez nos 6 milliards de bénéfices tranquilles, deal. C'est beau quand même. Le géant français du transport maritime de conteneurs qui finance la conférence pour sauver les océans. Bah, bien sûr, ouais, et SOS Village d'Enfants sera parrainé cette année par Jean-Marc Morandini. Et dans la presse, il y en a qui appellent ça la COP 21 des océans. Je sais pas si c'est un bon signe. C'est pas bon signe pour Nemo, ça, non? Ouais, non, parce que la COP 21, ça fait 10 ans et bilan, les températures globales en hausse, les émissions de CO2 en hausse, la consommation de pétrole en hausse, les catastrophes climatiques en
hausse,
les déplacés climatiques en
hausse.
C'est bien, vous suivez. Ouais, le seul truc qui a diminué depuis la COP 21, c'est la crédibilité de ces sommets internationaux et surtout notre envie d'écouter Ségolène Royal parler des pôles Nord. Oh, quelle horreur. Le problème de ces sommets, c'est les limites onusiennes. Comment expliquer? Un traité de l'ONU, c'est comme un tatouage à l'aîné sur la planète. Ça a l'air sérieux 2 semaines et après, il n'y a plus rien. C'est l'amourette de vacances. On se promet que c'est pour la vie, puis chacun rentre chez soi et c'est terminé. Macron a mis le projecteur sur l'annonce de la ratification prochaine du traité sur la haute mer qu'il présente comme une révolution. Mais en fait, il s'ajoute à des accords déjà en place. Donc, si un sujet est déjà traité par ailleurs, il ne s'appliquera pas. Je sais, c'est un peu technique. Mm-hmm. Du coup, pour simplifier, ce traité sur la haute mer, c'est un peu comme utiliser une capote trouée. On dirait que ça protège, mais ça laisse passer toutes les saloperies. Et en plus, dans ce traité, la pêche, elle est mentionnée qu'une seule fois. Alors sûrement, vous me demanderez, mais comment ça se fait? Allez-y, demandez-moi.
Comment ça se fait?
Ben, c'est parce que le seul truc plus profond que les zones marines qu'on continue de labourer au chalut, c'est les gorges qu'on fait au lobby de la pêche industrielle. Les gorges profondes. Ça prend du temps, je sais. Oui, Madnu était tout fier de dire que les annonces de la France permettront de faire doubler le niveau de protection forte dans nos zones économiques. Alors là, tu dis, oh, hey, beau boulot, Manu. Brigitte va pouvoir lui distribuer une gommette étoile. Mais non, en fait, il s'est approprié le travail mené depuis plus de 10 ans par le gouvernement polynésien et les 900 000 km² de protection stricte. Finalement, Brigitte, tu peux lui recoller un taquet dans la tronche pour lui remettre les idées en place à celui-là. La ministre de la transition écologique Agnès Pannier-Runacher a annoncé dimanche l'interdiction du chalutage de fond dans 4% des eaux autour de l'Hexagone. Les ONG sont déçues. Oui, parce que 4%, c'est bien genre pour un yaourt un peu riche ou pour le quota des femmes PDG dans le 440 ou alors pour un résultat d'élection de Valérie Pécresse. Mais pas pour la protection des fonds marins. Et écoutez, le mieux là-dedans, l'association Bloom a démontré que les aires marines identifiées se situaient presque exclusivement dans des zones où il n'y avait déjà pas de chalutage de fond. Bon, voilà, c'est officiel, ils nous prennent pour des gros débiles. Ils sont à deux doigts de nous annoncer que le chalutage en eau profonde serait interdit dans le canal Saint-Martin. Il y a trop de risques d'endommager les vélibs qui dorment paisiblement au fond. Non, le gouvernement, pour protéger l'environnement, il interdit des pratiques dans des endroits où ces pratiques ne se font pas. Préparez-vous, à la COP30 au Brésil, ils vont annoncer l'interdiction des canons à neige à Saint-Tropez. Et Agnès Pannier-Runacher, là, a appelé à ne pas stigmatiser les pêcheurs qui travaillent dur. Ouais, là aussi, c'est un peu du... Ouais, on est d'accord. Non, parce qu'elle nous vend l'image de Erwan Le Guenec, pêcheur indépendant avec son petit bonnet Saint-James et sa marinière bien ajustée, là. Non, c'est pas un pêcheur que je décris. écrit là, c'est mon dernier rêve érotique. Oh oh, et là, ça te le fait pas, toi, les marins, là, l'odeur d'iode et les mains calleuses. Ah, non, mais c'est chalutier, industriel, ça a rien de sexy, ça a rien de sexy. C'est des monstres des mers avec des sonars militaires et un congélateur qui pourrait stocker la moitié du catalogue Picard au chromos. Ces machins-là, ça racle les fonds marins aussi bien que les subventions européennes. Les chaluts de fonds français ravagent en moyenne 670 000 km² de fonds marins chaque année. Bon. Soit l'équivalent de la France, la Suisse et la Belgique. Ravager la France, la Suisse et la Belgique en un an, on n'avait plus vu ça depuis la tectonique. Et comment faire pour arrêter ces méga chalutiers? Je sais pas, on pourrait demander un coup de main à Netanyahou. Hein, arrêter les bateaux, il sait faire apparemment. Oh, elle passe moyen celle-là. Oh là là. J'aurais peut-être dû attendre de re-signer mon contrat avant de la faire. Bon, on s'en fout, on continue.
T'inquiète.
Non, mais c'est dingue de penser que dans la plupart des aires marines protégées en eau française, le chalutage de fond est autorisé. Genre, naïvement, moi je pensais que quand on appelait ça des aires marines protégées, parce que c'était des aires marines qui étaient protégées. Mais non, t'as le droit d'aller racler le fond comme si c'était le dernier pot de yaourt dans le frigo. Hein. En fait, le seul truc protégé dans ces zones-là, c'est les intérêts des industriels de la pêche. Et pour être sûr que ce sommet sert vraiment à rien, les USA sont pas venus. Et un sommet international sur l'océan sans la première puissance maritime mondiale... Ouais, il n'y a même pas besoin de faire de vannes. Hein, genre. Et quelques chiffres pour terminer. L'océan absorbe 90% de la chaleur, 30% du CO2. Et cette semaine à Nice, il va surtout absorber 100% de notre hypocrisie.
Bravo.
Merci. Bravo. Julie Conti.
Alors sur scène, ce sera à Genève pour les dernières. Attention, ce sera vendredi et samedi. Et en France, ce sera le 17 juin à la Petite Loge pour son fabuleux spectacle. Zut, elle était trouée.
Indomptable, aujourd'hui au cinéma, le nouveau film de Thomas Gijol avec Danilo Mélandais, bienvenue Mvoué, Thérèse N'Golo, Junior Bessala, Dimitri Amougou, Christole Jomo, Terence Saba, Olivier Fomejo, Gaston Tsinapi, Janvier Paul Nguind, Ariane Tomba et Issa Inkou. Je tenais à dire, et pardon si j'ai abîmé quelques noms.
Tu t'en es très bien sorti. Ouais.
J'ai fait ce que j'ai pu, mais en tout cas pas.
Avec beaucoup de peur et à la fin, j'ai senti, bravo.
J'ai senti, mais je voulais surtout, par respect, en tout cas les citer tellement ça joue bien, encore une fois, que Thomas joue bien, c'est pas une surprise, mais qu'il y ait autant de monde et autant de justesse dans toutes ces scènes, encore une fois, qu'elles soient jouées, qu'elles soient d'interrogatoire de police ou au contraire de sincérité, de transmission au sein de la famille ou d'amitié. C'est juste, c'est dans un bon tempo et c'est touchant.
Qui signe la musique ?
La musique, c'est mon ami très grand compositeur Danny Sainté et un jeune homme qui s'appelle Isco qui l'a secondé. Et vraiment, ils ont fait un travail magnifique.
Il fallait qu'il y ait du foot ?
Oui, c'est toujours obligé. Moi, je glisse toujours le foot, mais au service du sujet. Ouais. Voilà. Donc voilà, ma fille dans le film joue une petite joueuse de foot. Ouais.
Gardienne.
Gardienne, ouais, ouais. En plus, tu vois, vraiment le truc, voilà, pas inattendu, mais bon, voilà, qui me fait plaisir.
La Donnarumma,
locale, voilà, du bled.
On va parler du cinéma africain. D'ailleurs, est-ce que vous mettez votre film dans la catégorie d'un film africain ou vous dites, moi, je suis français, laissez-moi tranquille, c'est un film français.
Un film ? Non, je calcule pas trop ça, mais franchement, quand j'ai été faire ce film, moi, j'étais en total Thomas Afrique Cameroun, totalement. Je ne suis pas de Maison Alfort ni de Paris parce que je voulais faire un film du continent, pas avec le regard occidental.
Eva Sophie sera donc avec nous tout à l'heure. Elle est journaliste culture à Jeune Afrique et la musique dans la vie de Thomas Gijol, ça commence dans les années 90. Hey. Eddie Mitchell.
Ouais.
Et pourquoi ce titre en particulier de
Il m'aime beaucoup ce morceau. Je pense que je voulais beaucoup d'enfants en fait. Donc je l'écoutais avant d'avoir des enfants et je l'écoutais beaucoup.
Vous aviez le baby blues avant d'avoir des enfants.
Ouais, je voulais des enfants. Je l'écoutais en voiture. Je rêvais d'avoir des enfants et aujourd'hui j'ai de la chance d'en avoir. Donc voilà. J'étais en moment en rupture totale de hip hop et j'écoutais beaucoup d'Eddie Mitchell et ce morceau il me parlait beaucoup.
Et vous êtes à cette époque-là aide éducateur à l'école primaire Eugénie Coton à Bonneuil-sur-Marne.
Ouais. C'était l'époque. Je sortais beaucoup en plus à cette période, mais je sortais pour combler le vide en fait affectif. C'est assez drôle, avec du recul, je le savais. Je dis bon, il faut bien vivre, t'es jeune, mais j'avais d'autres espoirs dans la vie.
Ouais, vous attendiez les enfants.
C'est pour ça que je prenais
vous
beaucoup.
Vous y êtes trop prof ou pas vous ?
Ouais. Mais je prenais un plaisir fou. Moi, j'étais éducateur, j'avais passé mon concours et tout. J'étais avec des enfants, c'était de la nourriture. Ils se rendent pas compte à quel point ils ont œuvré dans mon travail sur scène parce que. ils sont sans filtre dans toutes les émotions, c'était super.
Encore aujourd'hui, vous avez ce rapport-là, dès que vous croisez des enfants, dès que vous partagez des entretiens après des projections, par exemple, ou après des spectacles.
Ouais. Vous
vampirisez, vous les écoutez comme des capteurs.
Non, j'aime bien échanger. J'ai toujours été, attiré, c'est bizarre de dire ça, attiré par les enfants.
Eh bah tiens, ça tombe bien, parce qu'en 2005, vous écoutiez... J'étais obligé de faire la vanne.
C'est terrible.
C'est dur.
Écoutez, c'était. On va retenir l'artiste, on va séparer l'artiste des enfants. Et des j'écoutais beaucoup.
Michael Jackson.
Ouais, la deuxième partie de cet album, Dangerous, c'est la partie un peu spirituelle. Parce que faute d'aller à l'église ou dans les lieux de culte, autre, moi je crois en Dieu, mais je crois en Dieu de façon méga large. Et il y a des moments où, à travers la musique, je sais pas, je me...
C'est-à-dire, vous croyez en quelque chose qui peut-être est au-dessus de
qui n'est pas
forcément retranscrit par un livre.
Ouais. J'ai autant d'amour pour mes frères musulmans, frères juifs, mes frères, voilà.
On est d'accord.
J'ai un peu de... Voilà, je suis humain, voilà.
Et quand on adore les enfants... Est-ce que c'est pas faire un petit...
Est-ce qu'on peut enlever Michael Jackson pour
Non, mais est-ce qu'on fait pas un petit deuil à un moment de se dire qu'on n'aura plus de bébés dans les bras, en tout cas les siens qui grandissent que...
C'est pas évident, hein, parce que justement, j'en parlais encore avec ma dernière fille qui a 7 ans, et je lui dis, mais je lui ai posé la question, je vais prendre son bain, j'ai dit, t'es encore un petit bébé toi? Elle m'a dit, non, je suis une petite fille.
Ouais.
Et ça, c'est un peu, voilà.
Mais la
bonne nouvelle, c'est ça. Ouais. C'est que, après, il faut qu'elle trouve un mec, mais l'aîné a 28 piges, et franchement, à tout moment, je peux être grand-père, et ça, j'ai plutôt hâte.
C'est cool.
Ah bah oui, j'ai pas envie d'être un grand-père quand je suis en fin de game, quoi. J'ai mal au dos et tout, quoi. J'aimerais bien pouvoir promener les enfants.
En plus, c'est fun d'être
grand-père
maintenant.
Pardon ?
D'être grand-père, c'est encore plus fun, je crois.
Ouais, enfin, moi j'ai envie, les enfants, les bébés et tout. Enfin, ça met du sens. On fait un métier tellement prenant, tellement des fois déconnecté de la vraie vie, que quand on est dans la vraie vie avec eux, ça fait du bien, quoi.
En 2008, Thomas Gijol, vous écoutiez... Il a la drogue, donc, maintenant.
Non, ça, c'est Snoop. C'est Snoop, mon artiste préféré. Non, là, c'est les années...
Le fou du roi.
Ouais, et puis c'est les années où je vais à Los Angeles aussi. Je voyage beaucoup.
Alors, vous étiez sur Inter?
Pardon?
À quel rythme vous étiez ici, à France Inter?
Non, j'étais une fois par semaine, fou du roi.
2008.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai du mal, putain, c'était le matin et tout, c'était dur.
C'est
11h.
Ouais, c'était le matin.
Ah, c'est maintenant.
C'est dur pour moi. Voilà. Okay. J'ai pas la même temporalité que vous. Mais non, c'était des belles années aussi. Parce que c'était des années je voyageais beaucoup, je m'amusais beaucoup.
Enfin, c'est... Thomas, à partir du moment où vous êtes papa, il n'y a plus eu de grâce matin.
Il n'y a plus de matin.
Oui, mais c'est vrai.
Ah, la vie, c'est le matin.
Je viens de prendre conscience.
Ouais. Ah oui, il n'y a plus de grâce mat.
C'est donc pour ça que ma femme me fait des remarques.
Voilà.
C'est parce que j'avais pas du tout la même temporalité depuis tout ce temps.
C'est facile d'aimer les enfants si on dort jusqu'à
l'heure. C'est ça.
En 2009. Oh
là là. Ça, c'est...
Oui, c'est fin de la phrase.
Ouais, non, c'est parce que je pense à ma femme, en fait. Ça correspond un peu à la rencontre aussi avec ma femme.
Et vous jouez votre one-man show, pardon, à bloc?
Ouais. C'est pas tout à fait la même époque. Je vous dis n'importe quoi.
Ah bon?
Ouais, je confonds les époques, mais peu importe.
On va appeler Carole pour savoir la bonne date.
Mais cette chanson me fait penser à... Parce qu'il parle de sa femme et ça me fait penser à ma femme.
D'accord.
Mais peu importe.
Et quel souvenir vous gardez de ce spectacle-là? Parce qu'à chaque fois dans la vie d'un artiste qui monte sur scène, il y a des étapes, des couleurs. Là, avec ce film, vous rapprochez d'un lien de famille à vos racines. À bloc, c'était plutôt quoi?
C'était un peu Maison Alfort et un peu mes parents. C'est à bloc, il y avait même le côté bloc où enfin il y avait le visuel du spectacle, il y avait ces briques qui sont dans mon quartier là, ces briques rouges.
Ouais.
Et c'est un peu, j'ai toujours eu peur en tout cas à cette période de me déconnecter de là d'où je viens, donc de mes parents et de mes origines sociales. Ouais. Et j'étais content en fait d'avoir été au bout de ce spectacle et d'avoir toujours enfin la reconnaissance de mes parents et puis de mes amis d'enfance qui me disaient que c'était cool ce que je faisais.
Mmh. Eva Sophie nous a rejoint. Bonjour Eva, merci de venir à ce micro. Journaliste culture à Jeune Afrique. On peut mettre un autocollant, une étiquette sur le cinéma africain? C'est un genre?
Je ne sais pas si c'est un genre, parce qu'il faut rappeler quand même que le continent africain regroupe 54 pays. Il y a énormément de variétés. Par exemple,
on ne peut pas tous les mettre dans le
même panier.
Ou évidemment. Alors pour eux, le cinéma français est un genre. Ça dépend d'où on regarde, quoi.
Voilà. Exactement.
Ou le cinéma occidental est un genre. Ouais, c'est ça.
Oui. Non.
Est-ce que ça produit beaucoup dans tous les pays d'Afrique?
Ça produit beaucoup, surtout au Nigeria. C'est la troisième industrie cinématographique au monde.
Et pourquoi là? Parce qu'elle est aidée par le gouvernement? Parce qu'il y a un public pour...
Alors, il y a un public, en fait. Vous parliez de genre. Ouais. Ce cinéma-là s'apparente au soap-opéra.
Ouais.
En fait, c'est des productions. C'est une machine, en fait. C'est une grosse machine. Il y a plus de 2000 films qui sont produits par an. Ouais. Donc, dans des conditions très rapides, en studio, etc.
Pas Bollywood, c'est pas des super productions ou c'est comme des sitcoms comme vous le définissez,
c'est-à-dire des sitcoms long métrage.
Faut des minutes efficaces par jour de tournage, c'est ça?
C'est ça.
Et si c'est le troisième, les deux premiers?
Hollywood et Bollywood. Ah, wow. Ouais, tout simplement. D'où le Nollywood.
Oui, le 3.
Quelques grands noms justement de réalisateurs ou d'acteurs?
Oui, alors si on zoome sur les espaces francophones, plutôt Afrique de l'Ouest, Ousmane Sembène, qui aurait réalisé le premier film africain. Il s'agit de La Noire 2. On peut voir des extraits en ce moment à l'exposition Paris Noir. C'est un film qui date de 1966, très nouvelle vague, en noir et blanc, avec une voix off, qui raconte la trajectoire d'une nourrice à Dakar, qui s'occupait, qui travaillait pour des patrons français, et elle décide de les suivre à Antibes, dans le sud de la France. Et finalement, son rêve un peu s'écroule, parce que une fois arrivée là-bas, elle est victime de racisme, elle est assignée à domicile et à faire des tâches totalement ingrates. Et c'est tiré d'un fait divers. Cette femme va sombrer dans la dépression. Après, je spoil pas la fin. Ousmane Sembène, on a aussi le camp de Tiaroy, évidemment, dont on a un peu reparlé l'année dernière à l'occasion des 80 ans du massacre. Toujours en Afrique de l'Ouest.
Dans les grands noms, il y a Abderrahmane
Sissako.
Mais est-ce qu'il y a une jeune génération qui arrive? Est-ce qu'il y a des premiers films réalisés? Dont on peut parler.
Oui, puisqu'on est là pour parler de la diaspora, j'ai envie de souligner quand même le travail de la diaspora, parce que c'est vrai que la nouvelle génération a du mal à circuler, enfin on a du mal à connaître les noms, parce que c'est difficile de sortir des frontières du continent. J'ai envie de citer quand même Apolline Traoré, qui est une cinéaste burkinabé, qui a remporté un prix il y a 2 ans au FESPACO, qui se passe au Burkina Faso, et c'est l'équivalent en fait du Festival de Cannes. Donc parmi la diaspora, j'ai envie de citer évidemment Thomas Njol, Jean-Pascal Zadi, qui va sortir un film qui se passe en Côte d'Ivoire, dans l'espace, mais aussi en Côte d'Ivoire.
Le grand
déplacement.
Déplacement.
Ouais. Simon Motairou, qui signe Nichelle Nimet, ça se passe à l'île Maurice. Atlantique de Matthew Diop. Enfin voilà, ils sont nombreux à faire le pont en fait.
Alors, justement, quels sont les... Là, on peut parler de genre. Est-ce que ce sont plutôt des comédies? Est-ce que ce sont des films de science-fiction, des polars? Justement, tous les styles sont abordés. Ou il y a une tendance?
On quitte quand même pas mal le naturalisme pour le cinéma de genre. Donc le polar, Atlantique. Il y avait un côté film de zombies aussi pour traiter de la traversée. Le film de Simon Montairou, c'est un film de survie à l'américaine. Donc il y a vraiment, les cinéastes s'emparent du cinéma de genre.
Et il y a des films politiques, il y a des films engagés, des protest-films?
Oui, bien sûr. Évidemment, le sujet dont s'emparent quand même les cinéastes, c'est le terrorisme, la question terroriste. On l'a vu avec Abderrahmane Sissako et Timbuktu, qui parlaient d'un pays miné par le djihadisme. Je citais Apolline Traoré, c'est la même question à travers les femmes. Après, Thomas aussi... raconte la réalité d'un pays, on l'a vu tout à l'heure, les disparités économiques, la traversée de l'Atlantique, de la Méditerranée, etc. Donc on peut parler quand même globalement d'un cinéma engagé.
Est-ce que là, en ce moment, à part le film de Thomas, pardon, vous avez un film à nous recommander?
Alors, pas en ce moment, mais en tout cas, je recommande, c'est un film coup de cœur des 5 dernières années, c'est La Nuit des Rois, d'un réalisateur franco-ivoirien qui s'appelle Philippe Lacote,
qui raconte une plongée vraiment brutale dans la plus grosse maison d'arrêt. Voilà,
ouais,
exactement.
C'est terrible ce film.
Génial. Ouais, c'est magnifique. Donc
avec Denis Lavant.
Côte d'Ivoire, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très théâtral. Il joue aux côtés de Steve Chen Shu.
Ouais.
Et c'est vraiment un film à la croisée du politique et du poétique. Mmh. C'est magnifique.
Ouais.
Parfait. Quelque chose à rajouter, Thomas ?
Non, sauf que je suis très content et très heureux de effectivement de l'émergence de plein de jeunes cinéastes africains, parce que on pourrait citer Alain Gomis avec qui j'ai un peu travaillé là dernièrement sur son dernier film qui va pas tarder à arriver, et puis plein d'autres, et je trouve que c'est bien parce que ça nous complète nous dans le sens c'est les bienfaits de nos doubles cultures, dans le sens où oui, on est français, mais on a des origines, et c'est bien de retourner, de créer ces ponts culturels.
Et ça va servir de modèle aussi à une génération qui ne se reconnaît pas toujours dans des films et dans des productions.
Récits. Ouais, exactement, absolument. Exactement.
Merci Eva-Sophie d'être venue à ce micro. On continue de parler évidemment de Indomptable, de cette BO également, de ce film. Très. Alors on est vraiment dans des... ambiance suspense. Ça tourne, elle joue cette musique.
Ouais, c'est cool, mais.
C'est un personnage aussi dans le film.
Oui, on a construit la musique vraiment en parallèle au montage, c'est très important. Et puis, non, c'est. Comment dire, je voulais pas trop faire le truc comme cliché polar, mais on a besoin quand même de cette adrénaline sur certains moments. Oui, il fallait quand même des rêves par moment et on les a utilisés à bon escient.
Ça sort aujourd'hui, Indomptable. Tout de suite, voici Bruno Pec. Ah,
les amis, ce week-end, j'ai eu de la visite.
Alors je sais, au vu de mon influence en tant que jeune humoriste brésilien, vous pouvez penser que j'ai reçu Lula à la maison pour prendre un café. Eh ben non, parce que Lula boit pas de café, c'est pas bon pour son cœur, donc on a pris une caipi. Non, ce week-end, j'ai eu une visite encore plus importante. Ma famille est venue de Suisse.
Oh, voilà, wow.
Ma sœur, mon beau-frère, mon neveu et mes parents sont venus à Paris pour me rendre visite.
Et la place
Enfin, ils ont loué un appart, hein. Je pouvais pas les accueillir chez moi, j'ai pas la place pour tous les héberger. D'ailleurs, j'ai à peine la place pour héberger moi, donc j'ai limite gratté pour qu'ils me reçoivent eux dans leur appart, histoire de pouvoir déplier les jambes de temps en temps, mais bref. On était toute la famille ensemble, ce qui est un peu plus rare là depuis que ma grande sœur et son mec ont eu un bébé. Je suis donc tonton avec une tête de neveu. Faut savoir que moi, je suis très proche de ma sœur, hein, à tel point que si elle fait ce qu'elle aime dans sa vie aujourd'hui, c'est grâce à moi. Non, très rapidement, parce qu'en fait, quand j'étais petit, je zozotais. Du coup, je suis allé voir une orthophoniste. Ma sœur m'accompagne à chacune de mes consultations. Ça réveille une passion en elle. Aujourd'hui, ma sœur, elle zozote. Non, le week-end était génial. Hein. Mais voyager avec un bébé, c'est un délire. J'avais jamais fait. Ça demande un truc extraordinaire qui s'appelle de l'organisation. Ouais. Quoi. C'est, tu dois toujours faire gaffe au bébé. Autant d'attention pour une si petite chose. C'est fou quand on dirait les hommes avec leur sexe. J'adore mon neveu. Hein. J'adore mon neveu. Il a bientôt 2 ans et demi. Il adore les trains. Parce qu'il n'a pas de personnalité et qu'il habite dans un pays où les trains ne sont pas gérés par la SNCF.
Oui.
À Noël, par exemple, je lui ai offert, ainsi qu'à toute la famille, un tour dans le petit train de Montmartre. Uh-huh. Voilà. Alors ma famille pose un week-end, fait plus de 500 km de voyage, loue un appart, on monte dans le petit train. 2 minutes après le départ, mon neveu s'endort. Mais ça va ou quoi? Je veux dire, 6 mois d'organisation et 80 balles de ma poche, je te fous du Red Bull dans le biberon et t'ouvres les yeux, mon coco, hein. Heureusement, ses parents étaient là, ils m'ont pas laissé faire ça, donc il a fait un gros dodo. Voilà. Bah, vous pensez que je vous en parle pourquoi? Pas une chronique que je fais aujourd'hui, hein. Je rembourse sa sieste, voilà. Bon, on a fait plein d'autres trucs, hein. On est allé à la Tour Eiffel, on a fait une expo pour les petits, enfin une expo que je comprends, une balade en bateau sur la Seine, on a joué dans des parcs, et à la fin du séjour, je lui ai demandé ce qu'il a préféré, et il m'a répondu, le métro.
Yes.
Dernière fois que je fais guide touristique, moi, je veux dire, bah, je me doutais bien qu'il n'allait pas répondre l'architecture gothique de l'île de la Cité. Je veux dire, la moitié de son ADN vient de ma famille, donc je vous laisse imaginer ce type d'intelligence à 2 ans et demi, quoi. Mais quand même, le mec répond le métro. Il aurait au moins pu répondre un truc qui n'est pas sous terre. Je veux dire, prochain Noël, c'est pas à Disney que je l'emmène, c'est dans les catacombes, quoi. Alors, je sais pas ce qu'il a autant aimé avec le métro, hein. L'odeur d'urine, peut-être. Voilà, ça lui rappelle la moitié de son existence jusqu'à maintenant. Donc... En tout cas, si vous vous demandez d'où vient l'odeur de pisse dans le métro parisien, c'est de notre faute. Hein. Et pour le coup, c'est pas à cause de mon neveu, vu que c'est mon père qui a pissé dans le métro. Ah ben il se fait vieux le pépé, hein. Je veux dire, bientôt il faudra prévoir 2 tailles de couches différentes, quoi. Alors tout ça m'a fait me rendre compte d'un truc, avoir un bébé c'est trop fatigant, mais en être un c'est chill. Donc maintenant j'ai un nouveau projet, je veux être un bébé. Or je sais, être à 4 pattes, avoir constamment un truc dans la bouche, ça fait rêver, mais je parle pas de ça.
Non,
non mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, mais bébé c'est quand même le top, quoi. On fait tout à ta place, on organise ta journée, on te prépare à manger, on t'habille, on te déplace. C'est ce qu'il y a de plus proche d'une vie de milliardaire, quoi. C'est pour ça que ton cerveau efface de ta mémoire les 3 premières années, pour pas que tu t'habitues à ce mode de vie. Parce que j'ai vu l'état de mes comptes, hein. J'ai plus de chances de redevenir un bébé que de devenir milliardaire. En plus je dis mes comptes, comme j'en avais plusieurs, quoi. Je veux dire, il y a mon compte bancaire et mon compte Snapchat, quoi. Les comptes en banque, c'est proportionnel à ton appart. Un studio, un compte en banque. Non mais comment c'est ouf d'être un bébé, quoi. On t'emmène au parc à jeux et on s'émerveille devant toi parce que t'as réussi à descendre un toboggan tout seul. Mais moi aussi, j'arrive à le faire. Et moi, je le fais sans les mains et je tombe pas à la fin, quoi. Alors je sais, on s'émerveille autant parce qu'il a fait quelque chose de nouveau qu'il n'a jamais fait auparavant. Mais moi, Quand j'ai fait ma première déclaration d'impôt, il y avait personne pour me féliciter, me filmer, m'envoyer dans le groupe de la famille, quoi. Par contre, il y avait un type du fisc pour m'appeler et m'engueuler, hein, soi-disant écrire pas assez dans Revenu Net, c'est illégal. Bon, je me rends compte que je suis peut-être un peu jaloux de mon neveu. Ah, mais c'est parce que avant sa naissance, le dernier de la famille devant qui tout le monde s'extasiait pour rien, c'était moi.
Et voilà.
Vous savez pourquoi je suis devenu humoriste? Parce que ma famille a toujours rigolé à mes blagues et s'enthousiasmait en écoutant mes histoires. Mais quand je vois comment ils réagissent devant mon neveu juste parce qu'il a sauté d'un trottoir, mais je me dis qu'en fait, c'est sûrement pas si drôle que ça, quoi. Alors oui, je sais, j'ai besoin de 25 ans d'existence pour comprendre un truc que vous avez capté dès ma première chronique. Mais bon, qu'est-ce que je peux être naïf, quoi. Non plus que j'aime le métro, et c'est bon, hein, je serais prêt à réaliser mon rêve.
Wow. Sur scène, Bruno Péquy, lundi 16 juin au festival Morges Sourire, c'est en Suisse, du 18 au 21 juin à l'espace Gerson à Lyon, et le 25 juin en point virgule à Paris.
Et Daniel Morin sur scène aussi à l'espace Gerson à Lyon, ça sera en octobre, et puis Daniel Ito au point virgule le 13 septembre.
Daniel scène, Morin,
et Thomas Gijol au cinéma avec Indomptable et Tanguy Pastureau. Dans la prochaine demi-heure, tu vas parler de quoi?
Je vais parler de l'état de la pédopsychiatrie en France. Actuellement, on devrait mettre le paquet là-dessus, hein, parce qu'on a l'impression qu'il y a des besoins, ce qui se passe, c'est tout le contraire.
Il est, comment dire,
bon?
C'est ça, il est bon ton jambon.
Jambon de Bayonne.
Ah oh bah oui.
Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
France Inter présente
5ème République, anatomie d'un régime en crise.
Un livre de Thomas Negaroff et Anne-Charlène Bézina.
Notre constitution est-elle à bout de souffle? Peut-elle survivre à la crise politique actuelle? 45 questions pour comprendre l'histoire politique contemporaine de la France.
5ème République, anatomie d'un régime en crise, un livre France Inter.
Col Propur. Col pour un collagène naturellement présent dans le corps. Col Propur. Pro pour l'expertise d'un fabricant depuis 1985. Col Propur. Pur pour des formules rigoureusement sélectionnées. Col Propur, spécialiste du collagène depuis 40 ans. Disponible en